Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. L'épisode que vous écoutez actuellement est issu d'un webinaire EduSign. Vous pouvez retrouver gratuitement ce webinaire et tous les autres sur le site edusign.com, dans la section ressources et nos webinaires. Bonne écoute. Écoute Caroline, merci d'être présente avec moi aujourd'hui. C'est super chouette. Moi, je suis très content de faire ce webinaire. Pour une fois, un webinaire qui est sur un sujet qui nous parle, je dirais, vraiment pas mal chez EduSign, donc qui est technologie au service de la lutte contre le décrochage scolaire, et donc forcément lié aussi à l'assiduité en partie, mais peut-être pas que complètement. Et donc, Caroline, je vais te laisser poursuivre, mais avant, je vais juste en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas EduSign. Donc moi, je m'appelle Elliot, je suis cofondateur d'EduSign. EduSign est une solution qui permet de gérer l'assiduité notamment, mais aussi les questionnaires, la signature électronique de documents, donc d'automatiser, de faire gagner du temps si vous êtes un établissement supérieur, un organisme de formation ou une entreprise par exemple. Et donc, je suis en compagnie aujourd'hui de Caroline. Et Caroline, je te laisse te présenter.
Merci beaucoup, Elliot. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'avoir aujourd'hui sur ce webinaire pour discuter d'un sujet qui est aussi important, préoccupant, mais très intéressant. Donc, pour ma part, je suis responsable des marchés francophones chez Aditio App. On est une plateforme de gestion intégrale pour établissements d'enseignement, toute étape éducative confondue. Donc, ça va gérer tout ce qui est partie gestion administrative, assiduité, évaluation, gestion économique, enfin voilà, on a un grand panel aussi de fonctionnalités. Du coup, entre elles, il y a la partie d'assiduité qui va être un petit peu ce sur quoi on va parler aujourd'hui. Entre autres, stratégie pour justement gérer le décrochage scolaire. Du coup, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, peut-être qu'on peut donner quelques mots hein, sur le décrochage scolaire pour introduire un petit peu le contexte.
Très bonne idée.
Comme son nom l'indique, voilà, décrochage scolaire, bah, l'étudiant, l'apprenant va décrocher, va abandonner ses études sans avoir nécessairement obtenu un diplôme ou une qualification. Alors, ça peut se passer à toutes les étapes éducatives. Allant du primaire, on voit des fois des étudiants, enfin des élèves qui ont peu d'intérêt, déjà un taux d'absentéisme, mais ça se passe également au secondaire, collège, lycée. Il y a le facteur orientation aussi, des fois, qui rentre en compte. Et bien évidemment aussi, l'éducation supérieure. On peut commencer un parcours, on ne termine pas. Enfin voilà, on a pas mal de contextes différents. Les raisons peuvent être aussi multiples. Ça peut être des raisons personnelles, économiques, des difficultés d'apprentissage, un manque de soutien. Enfin, voilà, on part sur des raisons qui peuvent être vraiment différentes. Mais dans tous les cas, ça a des conséquences sur leur futur. Hein. Ça peut être, voilà, en termes d'opportunités d'emploi, bien-être social, intégration. Voilà, on peut mentionner ces éléments-là. D'accord. On voit hein, des fois des signes de décrochage, ça peut être voilà, au niveau des absences, ça peut être en termes d'indiscipline, perturbation des cours, des choses comme ça, ou un manque d'intérêt. Donc, on va voir aujourd'hui justement comment est-ce que la technologie peut nous aider à détecter de manière précoce bah, certains cas justement de décrochage et comment aussi ça peut nous aider à le réduire. D'accord. Surtout, Elliot, n'hésite pas hein, à apporter au fur et à mesure de.
Non, non, bah, je t'en prie. Tu es très clair et effectivement, je compléterai avec des petites questions au fur et à mesure. Donc, l'objectif hein, pour tout le monde là aujourd'hui, c'est pas de vous faire une démo particulièrement d'une solution, mais vraiment de vous donner notre ressenti, notre point de vue et peut-être des petites astuces aussi sur comment réduire le décrochage, parce qu'effectivement, c'est un sujet, comme tu viens de le dire, qui concerne un petit peu tout le monde à différents niveaux, différentes échelles, mais en tout cas, qui est un sujet important pour tous. Donc, je pense que ça va être intéressant. Je te laisse poursuivre.
Super. En effet, la technologie, comment est-ce qu'elle va pouvoir nous aider? Alors, elle peut nous apporter des indicateurs avec des pourcentages, voilà, une visibilité un peu plus claire de tous ces aspects-là, pourcentage d'absence qui peut être élevé, un pourcentage d'incidents de comportement, les notes qui baissent. Voilà, on suit comme ça, on peut suivre justement le parcours des apprenants et ces tendances-là. On va pouvoir commencer par la gestion de l'assiduité. C'est un point très important et ça nous donne des indicateurs qui vont être très fiables justement pour cette détection-là. Donc, la base du processus hein, de gérer l'assiduité, ça va être notamment de faire l'appel hein, de manière digitalisée, justement grâce aux technologies. Chaque formateur enseignant, depuis sa plateforme, peut faire justement l'appel pour avoir les infos centralisées. Donc, à la différence justement des méthodes, on va dire, un peu plus anciennes, où on fait l'appel, par exemple, sur le traditionnel papier, la liste d'élèves, etc. Donc, ça donne voilà, une autre dimension à cet appel. En plus d'avoir ces registres, on peut aussi gérer les notifications, c'est-à-dire au-delà de les avoir enregistrées pour ensuite le traitement de ces données-là, on peut aussi notifier les familles ou les apprenants. Ça permet de les informer, de les impliquer aussi dans ce processus. On n'est pas toujours informé en tant que parent que notre enfant n'est pas justement en cours à l'heure où il devrait y être. Donc, ça permet d'aborder aussi cet aspect-là, la technologie. Et ça va nous permettre d'avoir ensuite des données fiables pour pouvoir les étudier, donc les analyser en termes de rapports. On va pouvoir définir des périodes, des groupes. On peut voir justement ces rapports pour un étudiant ou un apprenant en particulier. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de voir un schéma au niveau d'un groupe, au niveau d'un élève en particulier pour voir la progression et d'avoir le schéma un petit peu global de l'établissement. Donc ça, bien évidemment, quand on prend l'appel sur la feuille d'absence, c'est toujours un peu plus délicat d'avoir ces tendances-là, surtout de manière centralisée.
Alors, oui, forcément, il y a plein de façons de prendre la présence et la technologie va pouvoir vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur EduSign, sur Adisio, ce qu'il y a. Mais je pense que là, ce qui est important à retenir, c'est que, en tout cas, il faut avoir la donnée. Moi, c'est ça que je retiens dans tout cela. C'est que sans avoir le digital, on n'a pas cette analyse. Mais je vais te poser une question, Caroline. C'est finalement, une fois qu'on a ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que tu évoquais à un moment, par exemple, de prévenir les parents. Mais à quoi ça sert? C'est-à-dire, concrètement, OK, c'est cool, j'ai la data. Okay. Comment je peux rendre ça utile?
Ça peut nous permettre de faire aussi des comparaisons sur des périodes, parce qu'on peut voir par exemple une année scolaire où un étudiant a pas eu on va dire, d'absence injustifiée, on va dire en chiffres hors de la normale. Et on peut justement, ça permet de comparer d'une année sur l'autre, d'une période sur l'autre, s'il y a un changement dans l'attitude, un changement dans le comportement. Et l'assiduité justement des étudiants, ça permet d'avoir toujours des chiffres à l'appui. Parce que des fois, quand on parle avec les familles, on peut dire votre enfant, bah vraiment, on le voit pas en cours. Mais si on n'a pas de chiffres sur lesquels s'appuyer, si on n'a pas de données
Et ouais.
fiables, c'est quand même délicat on va dire, de s'en rendre compte. Et puis l'avantage aussi de la technologie, au-delà du papier, comme tu disais tout à l'heure, Elliot, c'est que c'est pas justement un professeur, c'est vraiment centraliser l'ensemble de l'information. C'est pas une seule matière, c'est vraiment l'ensemble du parcours, c'est l'ensemble de la formation. Ça nous permet d'avoir des chiffres sur, on va dire, la totalité des cours. On peut voir justement s'il y a un décrochage aussi, par exemple, sur une matière en particulier, un manque d'intérêt. Donc ça nous permet ces chiffres-là de rediriger aussi et de nous aider, enfin d'aider les établissements à prendre des mesures justement pour corriger
Et
ça. Donc ça peut être des tutorats personnalisés. Ça nous permet de discuter avec eux pour comprendre le pourquoi ils n'assistent pas au cours. Donc ça nous permet vraiment ce genre de choses.
de ton expérience, quelles sont les méthodes efficaces qui permettent de contrer cet absentéisme, ce décrochage scolaire, une fois qu'on a réalisé, puisque donc c'est la première étape, on a la donnée, on réalise que quelqu'un est absent, donc on le réalise assez tôt, là, c'est-à-dire que je le vois, il y a deux absences, j'attends pas qu'il y en ait 50. De ton expérience, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui résonne auprès, alors dans ton cas, j'imagine peut-être plus des parents, d'ailleurs, qui doivent avoir une incidence assez forte sur les enfants dans le décrochage scolaire. Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est plutôt d'envoyer un SMS, de les convoquer, de ton expérience, qu'est-ce que tu vois?
Alors ça dépend justement si c'est l'étudiant lui-même qui se gère un petit peu lui-même ou s'il y a la famille derrière. Donc ça va dépendre de ça, un petit peu l'étape éducative et du type d'établissement duquel on parle. En général, c'est vrai que les notifications, ça fonctionne pas mal parce que des fois, ça permet. On s'en rend pas compte des fois jusqu'à ce qu'on reçoive justement une notification à chaque fois qu'on détecte justement une présence. Ça permet des fois de mettre un petit peu plus, non, de pression aussi au niveau de l'apprenant pour qu'il se rende compte, non, et même la famille, des fois on se dit bon, on a raté une heure de cours, on a raté une matinée, on a raté une journée, bon, mais ça permet vraiment d'attirer l'attention sur ces choses-là. Et la communication, c'est vrai que direct, ça permet de voir avec eux un petit peu ce qui peut leur poser souci. On peut leur proposer aussi un soutien. Ça peut être un soutien pédagogique, enfin un soutien psychologique, un soutien psychopédagogique. Enfin, ça dépend vraiment de chaque contexte. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a ces numéros, on a ces chiffres, comme tu disais, on ne sert pas, on va pas attendre d'en avoir 50. Hein. Justement, le but, c'est aussi de détecter ça de manière un peu plus précoce pour pouvoir, pour ne pas attendre trop que ça soit qu'il soit trop tard finalement. On va pouvoir appliquer, bah, d'autres stratégies pour les motiver un peu plus, pour les impliquer, on va dire, dans le processus de manière plus directe. Alors ça va prendre d'autres dimensions. On peut par exemple assurer un suivi un petit peu plus important au niveau des évaluations pour contrôler aussi justement les évaluations.
Alors, parlons-en, je pense que c'est un sujet qui est important, parce que là, sur le décrochage scolaire, on parle de l'assiduité de manière générale depuis le début, mais il n'y a pas que ça, forcément, dans le décrochage scolaire, ce qui fait qu'on va décrocher, on peut naturellement le deviner, hein, le prof est ennuyant, bon, bah, forcément, la pédagogie a son rôle à jouer, je ne suis pas sûr qu'on va forcément pouvoir vraiment mesurer ça facilement. En revanche, peut-être qu'il y a d'autres points qu'on peut mesurer un peu plus facilement, ou des outils qui peuvent nous aider à mesurer. Qu'est-ce qui peut nous permettre de détecter le décrochage scolaire un petit peu plus tôt?
Justement, comme tu disais, au-delà, on va dire, de cette assiduité, on peut voir justement une comparaison au niveau des notes, au niveau des évaluations. On peut voir si, par exemple, un étudiant se portait bien en termes d'évaluation pendant tout le premier semestre et que finalement, au deuxième semestre, il y a une chute terrible des notes ou d'incidents de comportement. On sent qu'il y a on peut enregistrer aussi ce genre de choses avec les technologies. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça se limite pas justement à l'assiduité. Ça peut être un enregistrement justement des notes. Ça peut être un enregistrement. Alors, je dis notes, c'est pas nécessairement chiffré. Ça peut être aussi du feedback. Ça peut être du commentaire pour justement apporter plus d'informations et de contenu à ces données-là. Justement, le comportement aussi, s'il y a plus de bavardage ou un manque de respect, des choses comme ça, c'est justement c'est d'autres éléments qui nous aident à le détecter. Et après, en termes de justement de comment pallier un petit peu à ça, maintenant qu'on détecte ces éléments-là, aussi bien au niveau du comportement, au niveau de l'absence en classe, etc. Ce qui est intéressant aussi grâce aux technologies, c'est ces stratégies-là de suivi, d'implication des élèves. Comment est-ce qu'on peut impliquer les étudiants? Comment est-ce qu'on peut faire qu'ils raccrochent justement, qu'ils reprennent le fil de leurs études, qu'ils ne soient pas laissés en arrière? Qui se sentent, voilà, qu'ils aient un sentiment d'appartenance, qu'ils se sentent intégrés, qu'ils se sentent pas, on va dire, exclus, parce que ça fait aussi partie des choses parfois qui les poussent à, bah, à pas s'impliquer dans leur formation. Donc ça, c'est d'autres aspects qui nous permettent aussi de les impliquer. La technologie permet vraiment d'insister sur ces aspects-là. Alors, je cite quelques exemples, tu pourras en citer d'autres, bien sûr, Elliot, hein, mais tout ce qui est auto-évaluation, évaluation par les pairs, en fonction de leur âge, c'est intéressant aussi comme technique, puisque ça permet de voir comment eux, ils se voient, donc au-delà d'un professeur ou d'un formateur qui va attribuer une note ou une évaluation, il aura sa vision. Mais c'est important aussi de voir comment les étudiants se voient, comment ils se perçoivent. Ils ont réalisé un projet, ils ont réalisé une présentation. Le professeur le voit d'une manière, l'étudiant se voit d'une manière complètement opposée. Donc c'est intéressant de comparer justement ces éléments-là pour justement voir, OK, il y a une grande différence ici de vision, du travail réalisé. On va pouvoir en discuter, non? On va pouvoir ouvrir une communication là-dessus. Et l'évaluation par les pairs aussi, ça permet aussi entre les camarades de pouvoir s'évaluer avec des grilles d'évaluation, avec d'autres méthodes. Donc c'est vrai que ça, c'est une des stratégies qui est intéressante pour les impliquer dans ce processus justement d'évaluation.
Ouais, bah
Après, en... Ouais.
j'allais dire, je suis complètement d'accord. Et je pense que là, dans ce qu'on évoque, les évaluations, bon, il y a plein d'outils hein, qui permettent de faire ça. Il y a Adicio, il y aura DocuSign, mais évidemment, il y a aussi Google Form, les Typeform, tout ce que vous voulez. Finalement, je dirais que la méthode importe peu. Nous, par contre, de mon expérience, en tout cas, je dis notre expérience de chez DocuSign, ce qui est important, c'est de centraliser la donnée et de faire en sorte de la vraiment utile, de vraiment l'utiliser. Parce que j'ai vu trop souvent des évaluations être envoyées et puis. Pas regarder finalement. Alors quand c'est une auto-évaluation, au moins on évite un petit peu ce biais, parce qu'on va regarder hein, son auto-évaluation au moins soi-même, évidemment. Par contre, quand un professeur envoie une petite évaluation pour demander la satisfaction, par exemple, et finalement ne prend pas la peine de regarder véritablement ce qui est dit, ça devient un petit peu dommage. Donc je dirais que le plus important, c'est surtout de centraliser et de faire en sorte qu'on ait vraiment suivi de l'apprenant de bout en bout. Et je pense qu'on commence à voir ce dessin hein, de on a l'assiduité, on a les évaluations, on va peut-être avoir les notes, et puis petit à petit, on commence à tracer toute cette image hein, de l'étudiant afin de réduire le décrochage scolaire, donc de l'anticiper. D'ailleurs, je suis curieux, peut-être qu'on peut en parler 2 minutes hein, un petit peu en guise d'aparté, mais est-ce que toi, tu penses que on arrivera demain à avoir des systèmes qui vont prendre toutes ces données, peut-être utiliser de l'IA et à ressortir un profil de l'étudiant? Est-ce que ça vous intéresse, ça vous fait peur? Est-ce que c'est un sujet chez Adicio ou pas?
C'est sûr que c'est un sujet qui est intéressant, hein. C'est vrai que maintenant on s'en rend compte. Je pense qu'on est encore dans une transition
Oui,
entre
va
les
falloir un peu de
méthodes, on
temps.
va dire, plus traditionnelles,
Ouais.
l'arrivée des technologies, comment on peut maîtriser ces technologies. La technologie, ça peut faire peur aussi, mais il faut réussir à la dompter, on va dire. Là maintenant, c'est vrai que le topic, c'est l'intelligence artificielle. Donc, je pense que voilà, il faut peut-être, y a toujours des nuances, hein, au final, dans tout, mais c'est, je pense qu'on est encore dans une transition. On voit qu'il y a encore beaucoup d'établissements qui ont un petit peu de mal à passer, on va dire, aux technologies. Il y a toujours, voilà, cette petite réticence ou cette petite peur, mais c'est, enfin, c'est normal. Et nous, on est, enfin, dès l'instant, je pense, où on est un acteur dans les technologies, on est là pour les accompagner. On sait que c'est une transition qui fait peur. On sait que c'est quelque chose qui est pas forcément facile à aborder quand on a travaillé toute notre vie avec des cahiers, un stylo. Non, c'est pas forcément évident de passer tous ces processus de manière informatisée, de manière voilà. Mais c'est vrai que ça apporte énormément. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Je pense que oui. Est-ce qu'on est dans une phase de transition ou... également? Je pense que c'est on est
Ça
vraiment dans
dépend
cette...
peut-être de niveau de maturité, je dirais. Par exemple, peut-être qu'une entreprise qui est déjà dans le digital, qui a l'habitude, peut-être va pouvoir avancer sur les sujets techno un peu plus vite. Et je pense qu'il y a des outils d'ailleurs aujourd'hui qui permettent, hein, OpenAI, etc. Alors, peut-être mettre toutes ces données des étudiants-enfants sur ChatGPT, je ne sais pas, c'est une très bonne idée à voir. Mais en
Voilà,
tout
après tout ce qui est
cas.
protection des données,
Voilà,
voilà,
exactement. Donc
c'est un autre
faites
sujet.
attention. Exactement, c'est un autre sujet. Faire attention à ça. Mais bon, en tout cas, on peut espérer qu'à l'avenir, il y ait des analyses qui vous permettront de décrocher, enfin de réduire, pardon, le décrochage scolaire et de décrocher d'une meilleure assiduité à la fin, parce que c'est finalement ça la conséquence aussi. Si vos cours sont plus intéressants, les gens viennent plus.
C'est
Ok,
ça,
et
mais
est-ce
c'est
que.
vrai que oui.
Non, j'allais dire, est-ce qu'il y a des outils que, alors, au-delà d'Adicio, mais qui sont utilisés dans les salles de classe? Moi, je suis curieux de savoir, notamment chez les enfants, ce qui est utilisé. Je vais peut-être commencer, mais par exemple, dans le supérieur, dans les entreprises, les organismes de formation, on voit que souvent WooClap, Kahoot sont très appréciés. Si vous cherchez à dynamiser, aussi à gamifier, je dirais un peu l'expérience, parce que l'évaluation, ça n'a pas besoin d'être ennuyeux, ça peut être fun. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Mais est-ce que toi, ton expérience, tu as vu d'autres outils?
Bah, c'est vrai que ceux que tu me commentes sont assez fréquents. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a, voilà, maintenant, plus on avance et plus il y a des plateformes qui proposent ce genre de choses. Ça dépend, je pense, aussi un petit peu de la mentalité de l'établissement, de sa vision, parce qu'il y a certains établissements qui sont pas non plus très friands de donner on va dire, directement des écrans. Cette partie digitale directement aux élèves qui préfèrent l'utiliser plutôt dans leur propre gestion à eux. Mais c'est vrai que donner un côté attractif justement aux évaluations ou à la gamification en classe, c'est vraiment clé pour capter leur intérêt. Et ce que tu disais juste avant, ça permet aussi de faire une bonne transition. Le fait de ces technologies que convertir, transformer peut-être cette peur en un atout justement, enfin, ne pas le voir peut-être comme un obstacle, la technologie en classe ou ce que peut faire la technologie ou les écrans, etc. Mais essayer de le mettre à notre portée et au service, on va dire, plutôt de l'éducation et au service d'accroître l'intérêt justement des étudiants, des apprenants, voilà, en fonction de leur âge ou de l'étape éducative dans laquelle ils se trouvent, pour renforcer tout le processus justement de leur apprentissage. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. D'ailleurs, là, c'est le troisième point de cette slide-là. Au niveau des quiz, tu commentais certains outils. Je vais passer la slide simplement juste pour montrer aussi des quiz
Non, bien sûr, vas-y.
à l'appui. Du coup, ici, c'est un exemple, hein, de quiz qui est assez aussi, c'est interactif, c'est visuel. On est loin justement de la photocopie qu'on nous donne en classe avec une question, voilà, ABC de type texte. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin avec des images, avec des illustrations. Et le fait justement d'associer ces quiz, ces examens en ligne ou ces évaluations à la technologie, c'est quelque chose qui est attractif en général pour les étudiants. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les faire participer. Et en plus, au-delà de l'intérêt que eux ils vont pouvoir avoir pour ce type de quiz qu'ils vont pouvoir réaliser depuis leur compte, depuis la tablette ou le smartphone ou un ordinateur, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ensuite on peut dégager des analyses justement de ces résultats. Donc ça permet, en fonction des réponses qu'ils vont avoir données, ça permet d'obtenir les learning analytics qui correspondent, donc d'avoir des tableaux de bord, d'avoir pour telle question, on va dire, le pourcentage de réponses, d'avoir le détail de chaque étudiant. Donc ça, c'est aussi intéressant pour avoir les chiffres sur lesquels nous baser aussi. Donc il y a toujours la partie, non, copie, rédaction qu'on trouve, hein. Mais c'est vrai que c'est une autre stratégie pour, d'une part, les attirer, on va dire, leur donner des choses qui vont leur donner envie, on va dire, et d'autre côté, pouvoir en sortir des chiffres, des analyses de ces évaluations-là de manière digitale, centralisée, pour ensuite pouvoir prendre des décisions, pouvoir avoir ces chiffres-là à l'appui pour discuter avec eux ou avec les familles.
Puisqu'on touche à la pédagogie ici, hein, il y a un overlap très clair entre ce qui est data administratif et en même temps ce qui se passe vraiment dans la classe. Je pense que le secret, on ne le dira jamais assez, c'est de varier. Hein, si vous voulez que les gens soient intéressés en continu, il faut pas faire toujours la même chose. Parce que si on fait que du vocab, par exemple, toute la journée ou que de ce type de questions toute la journée, on va être fatigué quoi qu'il arrive. Par contre, c'est un bon changement de rythme, je pense, par rapport à la classe plus classique et peut-être par rapport à des vidéos, des podcasts. Il y a plein de choses à faire aussi dans une classe, évidemment, au-delà de tout ça. Super. On
Tout à fait, c'est sûr.
poursuit?
Super, pas de souci. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu de certaines stratégies, non, qu'on peut penser pour réduire ce décrochage. On a déjà vu comment on est arrivé jusque-là. On peut voir maintenant comment on peut remotiver nos étudiants, comment on peut renforcer ce sentiment d'appartenance. On discutait de la communication, justement. Donc, c'est important d'établir aussi des canaux de communication pour pouvoir avoir une communication directe avec eux. On sait aussi, voilà, par exemple, qu'on envoie un email. L'email, ça peut être des fois un petit peu impersonnel. Donc, trouver des solutions de communication plus directe, c'est comme un chat, hein. Un chat, c'est super intéressant, c'est super direct, même pour un étudiant. L'étudiant pense pas forcément qu'un professeur peut lui discuter avec par chat, parce qu'on a tous des fois une vision un petit peu différente dans des professeurs. Mais dès l'instant où on met ces solutions, on met ces outils à disposition des établissements, ça permet vraiment de leur donner, ben voilà, les outils pour pouvoir remédier à ça et faire en sorte que l'étudiant se sente, voilà, qu'il appartient au groupe, qu'il n'ait pas cette sensation d'être un élève de plus, et qu'il ait vraiment son rôle, qu'il se sente vraiment à l'aise dans son groupe, dans sa classe, avec les différents acteurs de la communauté éducative qu'il côtoie, on va dire, au quotidien. Et ça permet ces canaux de communication, justement, d'ouvrir, d'écouter, non? Parce que l'écouter, c'est important à ce niveau-là, que l'étudiant, l'apprenant, se sente écouté, soutenu, accompagné. Et ça fait en sorte, voilà, de remonter justement cette motivation, cette estime et cette envie d'aller à l'école finalement, parce que c'est vrai que quand on additionne un petit peu les autres, les facteurs, non, on n'est pas forcément motivé. Donc si on a ces outils-là que nous offre la technologie, aussi bien pour motiver les étudiants, aussi bien pour obtenir ces analyses, bah, c'est vraiment idéal, quoi. La technologie finalement, faut qu'on l'utilise à bon escient et qu'on en tire profit dans ces circonstances-là.
Je suis complètement d'accord et ça fait écho à des interviews que j'ai eu la chance de faire dans le podcast Formation Innovation avec des organismes de formation notamment, où on voit qu'il y a de la création de communautés, c'est-à-dire que la communication n'est pas juste personnelle nécessairement, juste un message par email entre deux personnes, mais vraiment un espace communautaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les outils utilisés sont vraiment en fonction de la population qui suit la formation. C'est-à-dire que pour, par exemple, des étudiants en entreprise, enfin des apprenants en entreprise, on ne va peut-être pas mettre un canal Discord, on va peut-être mettre plutôt Microsoft Teams, par exemple. Alors que quand on est avec des étudiants en école de commerce, on va peut-être mettre un WhatsApp. Et quand on est dans l'école primaire, on va plutôt avoir tendance à utiliser l'outil, je pense, de l'école, parce que personne n'a forcément un Slack, un Discord, un WhatsApp ou quelque chose comme ça. Donc, je dirais qu'il faut faire attention à bien choisir le canal approprié en fonction de sa cible sur la communication et peut-être aussi multiplier les canaux d'ailleurs, hein. Envoyer un mail n'empêche pas d'envoyer un message par chat. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à toucher tout le monde et avoir le bon message au bon endroit pour la bonne personne. Donc
C'est
c'est quelque chose
sûr.
qui effectivement aidera à réduire le décrochage scolaire in fine. Ouais.
C'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi en termes de communication, de canal de communication. On le mentionnait un petit peu avant, c'est la protection des données. Par contre, il faut toujours faire attention aussi
Bien
que
sûr,
cette
évidemment.
protection des données, qu'on utilise des canaux justement de communication qui soient sécurisés, qui permettent justement des échanges. Hein. Ça peut être dans une seule direction. Dans plusieurs directions, parfois on peut souhaiter que l'information elle n'aille que dans un sens, on souhaite l'avoir dans les deux sens, donc c'est vraiment important aussi de pouvoir moduler cette communication en fonction de ce qu'on souhaite. Voilà, ça nous permet aussi cette communication de pouvoir leur transmettre au-delà d'un bulletin, par exemple, qu'on va recevoir à la fin du semestre ou à la fin de l'année, etc. On n'a pas besoin d'attendre non plus. C'est, on va dire, fin de période. La communication, ça passe aussi par là. Ça peut être aussi une manière de transmettre ce feedback aux apprenants, de transmettre ces évaluations, de transmettre leur progrès finalement pour qu'ils le voient, qu'ils se sentent justement motivés, suivis. Et grâce aux canaux de communication qu'on va pouvoir choisir, que ce soit un chat, que ce soit en copie par email, en fonction de l'objet de la communication, cette partie-là, elle est également aussi importante à traiter, justement, cette communication de feedback, cette communication de progrès au fur et à mesure.
Tout à fait d'accord. Et
Fur et
c'est
à
vrai
mesure.
que le caractère instantané de la chose peut être intéressant dans
Tout
tous
à
les outils,
fait.
c'est sûr. Moi, il y a quelque chose que je vois là dans tout ça qui est hyper intéressant, c'est que finalement, on part de quelque chose qui est administratif, c'est-à-dire à la base, prendre la présence, mettre des questionnaires, prendre les notes, c'est quelque chose qui est un peu obligatoire, plus ou moins, d'ailleurs même souvent plus que moins, et on se retrouve à devoir le faire plus ou moins par obligation, que ce soit pour les enfants, mais aussi en France avec Calliope, pour les organismes de formation, par exemple. Et
Tout
je
à
pense
fait.
qu'ici, on a vraiment une opportunité de transformer cette obligation qui peut paraître un peu pénible dans certains cas, pour certaines personnes, notamment les formateurs qui passent du temps dessus, mais aussi les administrateurs qui paramètrent les choses,
À fait.
en un outil qui permet d'avoir un vrai bénéfice dans la classe et aussi pour l'école, parce qu'au final, forcément, hein, des élèves engagés qui restent, c'est mieux pour l'école, c'est plus facile à gérer, c'est mieux pour tout le monde. Il y a moins de problèmes avec les parents, etc., etc., dans le cas des enfants. Donc, c'est forcément plus agréable. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on vers de plus en plus. Avoir de la donnée permet de révéler finalement des solutions derrière, chose qu'on n'avait pas avant, en tout cas plus difficilement, hein, parce qu'on ne va pas se leurrer, il y avait forcément déjà des choses qu'on détectait au papier. Mais disons qu'on va pouvoir peut-être le faire plus tôt et avoir des automatisations derrière. Donc c'est super chouette.
Fait. Bah, c'était possible, hein. Enfin, c'est possible, hein. Toujours, ça a été fait jusqu'à présent. C'est juste que les méthodes peuvent changer et ça permet de faciliter, de leur faire gagner énormément de temps et de faire en sorte que quelque chose qui soit, on va dire, pénible, comme tu disais, passe à être quelque chose bah, qui fait partie du quotidien, mais qui n'est pas si désagréable que ça. Finalement, il s'agit de, voilà, quelques clics, on va dire, on remplit les obligations à elles-mêmes et de. On va dire, les analyses sortent presque d'elles-mêmes, pas tout seul, on clique sur un bouton et voilà, mais ça permet de rendre automatique tellement de processus que c'est vraiment une réelle valeur ajoutée pour les établissements. Donc, la technologie, c'est sans aucun doute une bonne méthode, un bon outil pour pouvoir y arriver.
Super. Alors, on a deux petites questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, même d'ailleurs un petit feedback sur ce webinaire, là, on arrive à la fin doucement. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses. Donc, une première question. Donc, quelle est la différence avec IDOCO? Alors, je ne connais pas IDOCO, mais peut-être que tu connais, tu vas pouvoir me dire.
Alors, IDOCO, bah, disons qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs différences en termes de fonctionnalité, mais notamment au niveau de la compatibilité. IDOCO, il me semble hein, que c'est compatible uniquement avec le système iOS, que AdituApp est compatible aussi bien sur n'importe quel navigateur que sur Android, iOS, et en termes de fonctionnalité aussi au niveau de l'établissement. On va avoir une solution, on va dire, plus complète en termes de gestion économique, de gestion administrative et dans la gestion aussi académique.
Super. Et donc, est-ce que EduSign permet d'automatiser le suivi des absences-présences, de faire des alertes automatiques, par exemple? Alors, oui, effectivement, je prends la réponse hein, sur celle-là. Donc, oui, on peut bien suivre les absences, les présences et avoir des alertes automatiques en fonction de l'assiduité, notamment sur des pourcentages de présence, sur un nombre d'heures d'absence justifiées, injustifiées. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Par contre, il y a des choses qu'on ne fait pas et que Adicio fait très bien. Donc, par exemple, si vous voulez aller voir des notes, ce n'est pas quelque chose qu'on fera. Il y a souvent des logiciels qui vont être en complémentarité avec EduSign, là où je pense qu'Adicio est peut-être un peu plus complet dans son offre. Donc, il y a des pour et des contre. Et si vous êtes plus à l'aise technologiquement, je dirais peut-être qu'EduSign peut vous aider à plugger à d'autres systèmes derrière, si besoin. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter. Et on a une dernière question, donc là, je suppose plutôt pour Adicio, donc c'est plutôt pour le secondaire. Dis-moi, Caroline, qu'en est-il?
Alors en fait, Aditio, ça va s'adapter à toutes les étapes éducatives, c'est-à-dire qu'on va avoir des établissements qui vont aller aussi bien crèche, maternelle, élémentaire, etc. Mais on va avoir également des établissements dans l'enseignement secondaire, supérieur, etc. Donc la plateforme elle-même est très flexible, personnalisable. Donc on va pouvoir adapter les compétences au secondaire, au primaire, ou on va dire, on peut vraiment personnaliser les différents éléments pour pouvoir adapter au niveau, à l'étape éducative dans laquelle on se trouve.
Alors, on a une question donc, de Estelle. Oui, j'ai une question, car là, nous abordons beaucoup de comment identifier les étudiants en décrochage scolaire, mais peu comment nous pouvons enrayer le décrochage scolaire en tant que RP, alors je suppose responsable pédagogique, et non en tant que formateur enseignant. Avez-vous des idées? Alors moi, je pense qu'on peut quand même résumer un tout petit peu ce qu'on a dit sur comment enrayer le décrochage en tant que responsable pédagogique, donc d'un point de vue peut-être administratif, et puis on pourra peut-être compléter la réponse, mais je te laisse prendre la réponse, Caroline.
Alors, si on parle du coup en tant que responsable pédagogique, peut-être qu'on parlerait peut-être plus de la planification, justement, non? Pour
Ça
s'assurer
serait,
justement.
ouais, ça serait la personne qui gère l'administratif. Alors, c'est vrai que oui, dans les établissements scolaires, il n'y a pas toujours de responsable pédagogique. D'ailleurs, ce serait plutôt finalement le formateur qui est directement, ou l'éducation nationale, hein, qui est directement le responsable pédagogique. Mais donc là, bon, je vais prendre un petit peu la réponse. Donc, en tant que responsable pédagogique, nous, ce que on va voir, en tout cas chez Hussein, pour enrayer le décrochage scolaire, c'est faire attention à bien avoir les données, bien mettre des alertes et faire en sorte que on puisse visiblement, facilement identifier les personnes en situation de décrochage scolaire ou en démarrage de décrochage scolaire potentiel, je dirais, parce que quand c'est trop tard, hein, et on le voit trop tard. Mais par contre, ça peut être avoir une première alerte de niveau 1. Par exemple, dès lors que j'ai une absence, bah, j'envoie un petit mot. Au bout de 3, bah, je vais en envoyer un, puis je vais planifier un meeting. Et puis au bout de 5, là, ça commence à être grave. Donc, je vais envoyer tout de suite quelque chose. Mais j'attends pas d'en avoir 12. Je fais ça tout de suite. Et ça, c'est important. Que ce soit là-dessus ou que ce soit sur les questionnaires, pareil. Mais bon, les questionnaires, c'est... peut-être plus du côté du formateur, mais pareil, si on voit que par exemple on envoie des questions de satisfaction, qu'on communique et que les informations ne sont pas prises en compte, pas répondues, par exemple au questionnaire, c'est des choses qu'on peut voir en tant que responsable pédagogique. Donc après, tout est une question de gestion de la donnée. Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on arrive à suivre ça? Et on va pas se mentir, hein, c'est difficile de tout suivre tout le temps quand on a 500 élèves, par exemple, en tant que responsable pédagogique, ce qui peut arriver. Mais si vous en avez 50 ou 100, jeter un petit coup d'œil dans la liste et rapidement voir l'état de chaque personne peut se faire de temps en temps. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le travail manuel parfois sert aussi. On essaie de tout automatiser, mais le but, c'est pas de dire l'IA va nous remplacer. C'est plutôt de dire ça va aider à aller faire l'analyse beaucoup plus rapidement et facilement. Mais il faut quand même faire cette étape. Je pense que Caroline, tu as l'air d'accord, hein, il faut quand même faire
Tout
cette
à
petite
fait.
étape manuelle.
Si, si, c'est vraiment, je pense que c'est très, très important ce que tu viens de mentionner. Ça vient, on va dire, en complément, même si on a parlé d'automatiser tous ces systèmes-là, ça vient en complément on va dire, de la tâche et des missions. On va dire, ça n'a pas vocation à remplacer, sinon vraiment à venir aider, guider, apporter ce soutien et ce support. Mais c'est vrai que c'était important que tu le mentionnes, en effet. Après, peut-être pour ajouter au niveau pédagogique aussi, proposer des apprentissages peut-être personnalisés aussi, justement pour enrayer le décrochage d'un point de vue plus pédagogique et pas tant administratif. Ça peut être également des solutions, des pistes pour justement faire en sorte qu'ils s'impliquent plus, qu'ils soient plus intéressés. Peut-être que on peut adapter le parcours pédagogique. Peut-être qu'on peut apporter des contenus un petit peu différents, sans parler des quiz, hein, mais je pense que ça peut être grâce à la planification aussi, c'est important. Ça peut couvrir cet aspect-là de proposer des contenus, des éléments ou un petit peu des éléments différents si on voit qu'il y a certains élèves qui ne sont pas spécialement attentifs ou adapter un petit peu le programme, ça peut être intéressant aussi.
Et Caroline, peut-être je te laisse le dernier mot pour clôturer le webinaire.
Parfait. En tout cas, je te remercie de m'avoir eu aujourd'hui. Je vois qu'il y a du coup une dernière question qui est arrivée. Simplement, voilà, dire qu'on est complètement à disposition pour répondre à vos questions, que c'est un sujet qui est très intéressant. Et il y a énormément, on a vu une partie, on va dire, de ce sujet, de ce thème-là, mais on pourrait en débattre et en discuter, aborder de nombreuses nuances, on va dire, pendant plus de temps. Donc, c'est un sujet qui est à suivre sans aucun doute. On est encore un petit peu dans une transition avec la technologie, les apports ce qu'elle peut nous apporter, encore un petit peu ces certaines peurs, mais voilà, sans aucun doute, ça nous aide et c'est important de l'apprivoiser, de l'utiliser de notre côté pour nous aider dans toutes ces tâches et toutes ces missions pour justement éviter. Voilà, on va pour la réussite des apprenants, des étudiants, leur insertion dans le monde futur, etc. Donc la technologie est sans aucun doute à notre service pour ça.
Super. Eh bien, écoute, merci à toi, Caroline, d'être passée aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite aussi à tous et toutes qui êtes présents aujourd'hui une très bonne journée. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère vous voir pour d'autres webinaires, d'autres podcasts, d'autres contenus et à bientôt.
Très bien, merci à tous. Bonne journée.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.